Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à SQL Server et au Big Data. Donc dans ce webinaire, nous allons voir certains aspects de SQL Server 2014 qu'on nous a demandé de représenter et aussi un aspect Big Data. Alors pour faire ce webinaire, je suis accompagné de Bertrand. Bonjour Bertrand.
Bonjour Franck, donc Bertrand David Renotte, je suis expert MS BI chez Kerus. J'interviens sur tout type de sujets décisionnels Microsoft depuis une dizaine d'années et je suis aussi référent sur les projets agiles en tant que Scrum Master.
Eh bien écoute, bienvenue Bertrand, je crois que c'est pour toi la première fois dans le studio Microsoft.
Tout à fait.
Donc eh bien écoute, bienvenue pour cette première. Alors merci. Pour moi-même, je suis Franck Mercier, donc je suis architecte solutions chez Microsoft et j'ai en charge tout ce qui est le Business Intelligence, donc notre solution de Business Intelligence et plus globalement tout ce qui tourne autour de la donnée et dont notamment en ce moment un des sujets phares qui est le machine learning mais aussi les objets connectés. Donc comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de SQL Server 2014 et de certaines nouveautés, donc on va y revenir, on a déjà fait des vidéos dessus mais c'est des choses qu'on nous demande assez régulièrement, donc on va refaire des rappels dessus, mais on va aussi parler Big Data et aussi de notre appliance APS, Analytic Platform System, que l'on va présenter avec Bertrand. Alors l'agenda que vous voyez ici, bon, bien sûr une petite introduction bien entendu, puis ensuite on va parler de quelques thèmes qui sont liés de plus ou moins loin au Big Data. Donc on va revenir sur une grosse nouveauté de SQL Server 2014 qui est la technologie in-memory, donc qui a été déjà introduite dans les versions précédentes. Mais là, avec SQL Server 2014, on va compléter la chaîne avec le fait d'avoir le in-memory au niveau du transactionnel en OLTP. On va parler de SQL en mode hybride, de tout ce qui est Big Data avec HD Insight, et puis on parlera de notre appliance APS. Et puis bien entendu, on fera une petite conclusion sur le sujet. Donc allons-y Bertrand, donc on commence tout de suite avec justement un marché en pleine mutation, donc on le voit chez nos clients. Toi aussi Bertrand, quand tu vas toi aussi vas faire des missions chez tes différents clients, une des premières choses que l'on constate, c'est ce besoin de mobilité.
Tout à fait.
Donc c'est la possibilité de pouvoir interagir avec les appareils que l'on fournit à nos clients ou que eux-mêmes apportent au travail, le fameux bring your own device, d'accord. Donc toute cette mobilité, c'est les tablettes, c'est les téléphones, etc. Et avec ces nouveaux appareils, naissent de nouveaux usages et on crée donc des nouvelles données. On envoie des tweets, on envoie des SMS, on prend des photos que l'on partage sur les réseaux sociaux, etc. Donc tout ça, nous-mêmes, on vient à créer de la donnée via les réseaux sociaux. Juste un petit chiffre ici que j'aime beaucoup, hein, 500 millions de tweets par jour. Donc ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est des choses que l'on... c'est de l'information que l'on crée, de l'information que l'on pousse et que l'on peut, d'une manière ou d'une autre, essayer d'exploiter. Le fait de publier ces informations sont publiées donc sur les réseaux sociaux, etc. Et bah, finalement, ça introduit la notion de cloud, hein, donc c'est cet espace où d'échange de données, où l'on peut créer tout un tas d'infrastructures, notamment si on prend l'exemple du cloud Azure, où vous pouvez créer vos propres machines virtuelles pour faire tourner vos propres solutions, que ce soit Microsoft ou non d'ailleurs. Vous pouvez même directement consommer des services, hein, des services SQL par exemple, voire même des services directement clés en main, type Office 365. Mais le cloud sert aussi pour stocker des données, se connecter pour sauvegarder des photos, mais aussi des parties de jeux vidéo, etc. Donc pouvoir utiliser tout ça. Comme j'ai dit, donc j'ai dit plusieurs fois le mot données. Donc les données, on en crée de plus en plus, il y a un fort volume de données. La partie en verte ici que vous voyez, dit voilà, en 2010, on a quand même fait 1,8 zettabytes de données et on prévoit une croissance énorme sur ces données. Alors la question que tu pourrais me poser Bertrand, mais qu'est-ce qu'un zettabyte ?
Tout à fait, mais tu vas nous l'expliquer je pense en quelques instants.
Exactement, parce que moi aussi quand on m'a parlé de zettabyte la première fois, je me dis oulala, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc un zettabyte, donc là ici vous voyez donc on a mis un peu à quoi ça correspond. Et surtout c'est que d'après les études qui ont été faites, on prévoit donc cette explosion de données qu'en 2020 on va être à 35 zettabytes. Alors comme on aime bien les analogies, on peut aussi imaginer que bah, 35 zettabytes, si on prend des DVD, qu'on met toutes ces données sur DVD et qu'on les empile, eh ben on aurait l'équivalent de la moitié de la distance entre Terre et Mars. Qui est quand même plutôt assez colossal. Donc il va falloir pouvoir traiter l'ensemble de ces données et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui on va vous présenter quelques solutions qui permettent d'aller dans ce sens. Alors, mon petit Bertrand, les challenges d'exploitation des données.
Alors, justement, pour faire un parallèle à ce que tu viens de dire, le big data, ce n'est pas seulement de la grosse donnée, une explosion du volume de données, mais c'est aussi un problème de l'accès aux données et de la démocratisation de celles-ci. En effet, comme on peut le voir sur la slide qui est ici présentée, très peu de collaborateurs ont accès à des informations de type BI et en général, cette information, elle est délivrée par l'IT. C'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une information. Donc les enjeux du big data, ça va être aussi ça, c'est de pouvoir démocratiser l'accès à l'information et de donner la main aux collaborateurs pour pouvoir manipuler cette information qui provient, comme tu as pu le faire voir, de toutes sources de données. Puisque aujourd'hui, nous sommes tous des contributeurs et des créateurs de données, aussi bien à titre privé qu'à titre corporate.
Alors tu l'as justement dit, les utilisateurs sont parfois en attente de données.
Tout à fait.
Donc c'est ce que montre en fait cette étude de marché.
Puisque les sources de BI qui sont proposées aux utilisateurs, ce sont des populations IT qui les ont mis à disposition. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent, par exemple via Excel, de se connecter directement à des données qui proviennent donc du big data et de les manipuler dans tout ça au sein d'Excel et de faire du reporting final que entre guillemets n'importe qui est en mesure de mettre en œuvre.
D'accord, donc là on redonne un peu plus la main finalement aux utilisateurs qui ont besoin de manipuler la donnée et de ne pas forcément attendre qu'on leur donne accès à une source, et à une autre.
Tout
là l'utilisateur peut aller, s'il sait où sont les données, s'il sait comment les récupérer, y aller, s'y connecter et la traiter.
Tout à fait. Et tout cela au travers d'outils pour lesquels il a déjà en général une grande compétence et connaissance au travers d'outils comme Microsoft Excel.
D'accord, donc ça nous permettra quelque part de gagner en agilité.
Tout à fait.
Alors justement, on va continuer. Donc pour ça, effectivement, nous proposons une plateforme globale pour le traitement de tout le cycle de vie de la donnée. Donc via SQL Server 2014, donc la plateforme de données. Ici, donc, nous avons trois principaux piliers. Accélérer l'exécution, accélérer le déploiement, et notamment le déploiement aussi bien à demeure que dans le cloud, et puis aussi accélérer l'innovation. Et bah, c'est ce qu'on va vous montrer tout de suite finalement. Donc si on part sur tout ce qui est l'accélération pour la performance d'applications critiques, pour la plateforme vers le cloud hybride et pour la plateforme pour le big data, on va commencer par le premier pilier et en termes de performance. Alors, je vais aller très vite sur ce slide qui est tout ce qui est évolution de notre offre. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes en version SQL Server 2014. Il y a une version 2015, j'ai entendu dire, qui est dans les tuyaux pour bientôt. La version 2014 apporte des choses intéressantes, notamment en tout ce qui est gestion des bases données en mémoire, nativement intégrées à la solution et qui permet justement d'accélérer le traitement des données. Une version aussi optimisée pour tout ce qui est cloud hybride et bien entendu tout ce qui est intégration pour le big data et la business intelligence. Alors, ça, c'est la vue d'ensemble de notre plateforme. Donc, Bertrand, si tu veux nous en dire quelques mots.
Donc oui, si on regarde cette vue d'ensemble de la plateforme générale, comme on peut le voir, au niveau des sources de données, on en a parlé tout à l'heure, il y a tout type de sources de données. Donc ça peut venir de capteurs, ce qu'on appelle l'Internet des objets, IoT. Ça peut venir de devices mobiles, des smartphones, des tablettes, des bots, des crawlers, etc. Donc ça, c'est plutôt pour toute la partie big data, données non structurées. Au niveau des données structurées et plus classiques, on a des données provenant de bases de données ERP, de CRM ou de bases de données applicatives. Toutes ces données, donc, ce sont nos sources qu'on va devoir intégrer et réconcilier. Donc, pour les données non structurées du monde Big Data, on va les réconcilier dans une région HD Insight. Donc, HD Insight, c'est Hadoop pour, dans Microsoft Azure ou sur Windows Server. Donc, dans une région HD Insight au sein de l'appliance APS dont nous avons parlé précédemment et qu'on verra un peu plus en détail dans le webinaire. Pour les données plus classiques, donc structurées, on va les intégrer dans une région PDW, Parallel Data Warehouse, qui est la partie massivement parallèle du moteur SQL Server. Et ces deux types de données, qui a priori ne sont pas faites pour communiquer facilement ensemble, on va pouvoir les réconcilier avec ce qu'on appelle Polybase, qui est, pour faire simple, en langage SQL, la possibilité de requêter aussi bien des données structurées que des données non structurées. Une fois que toutes ces données ont été intégrées et réconciliées, réconcilier, agréger, etc. On va pouvoir les enrichir, par exemple, avec du Master Data Management. Bien entendu, ces données qui ont été mises à disposition dans le Master Data Management, on va pouvoir aussi les nettoyer avec de la data quality. Et sur le tout, on va pouvoir mettre en place des cubes OLAP, du data mining ou encore du reporting institutionnel avec du reporting services. Le tout sera disponible aux utilisateurs ensuite via un portail SharePoint dans un navigateur web, dans Excel, comme on a pu en parler tout à l'heure, avec les différents add-ins Power BI, sur des devices mobiles, téléphone ou tablette, ou encore la possibilité en langage naturel de requêter nos données BI comme au travers d'un moteur de recherche comme dans Bing.
Donc si maintenant on fait un peu plus un focus sur notre solution SQL Server 2014, donc ce qui est plus qu'un moteur finalement.
C'est plus qu'un moteur. Donc effectivement, il y a la partie moteur pour tout ce qui est stockage de données. C'est aussi une appliance. Donc une appliance, pour faire simple, c'est une solution tout en un hardware et software préconfiguré.
Tu dis ça aussi, ça peut être aussi.
Ça peut être aussi.
Voilà.
Donc il y avait Parallel Data Warehouse qui existait déjà, qu'on connaissait, pour faire du massivement parallèle, ou Fast Track. Et il y a aussi APS, Analytic Platform System, qui existe, qui est quelque part la suite logique de Parallel Data Warehouse, avec une région PDW et une région Hadoop, HD Insight. C'est aussi un moteur de processing d'événements en temps réel à Extreme Insight. Et comme on l'a dit, SQL Server, c'est plus qu'un moteur de données. C'est tout un ensemble de briques qui va permettre d'adresser les problématiques BI. Donc on a un ETL qui est embarqué avec SSIS pour l'intégration des données. On l'a vu, on peut mettre en place un système de référentiel avec du data management dans MDS, des données qui sont donc bien entendu nettoyées avant d'être intégrées et utilisées au travers de Data Quality Services. Une fois donc que toutes ces données sont prêtes, on va pouvoir mettre en place des cubes, OLAP ou du data mining dans SSAS et proposer ensuite du reporting institutionnel au travers de reporting services. Donc c'est une offre complète avec, il faut bien le souligner, sur un seul produit, une seule licence, on a l'ensemble de ces produits.
Merci pour cette explication à Bertrand. Donc on va continuer et notamment avec une des nouveautés qui a été apportée par SQL Server 2014, qui est donc la technologie in-memory au niveau des bases de données, au niveau donc du transactionnel. Alors, ici, ce que l'on voit, donc, c'est toutes les étapes de l'activité in-memory. Donc peut-être que Bertrand, tu veux nous dire un mot dessus.
Donc ce qu'on peut en fait schématiser, ce qui est schématisé dans cette slide, c'est que la technologie memory, en fait, va être au bénéfice de l'ensemble du traitement de notre donnée. Sur tout notre cycle du traitement de la donnée, on va pouvoir en bénéficier. Donc comme on l'a pu le voir au niveau des systèmes transactionnels et d'intégration des flux de données avec Stream Insight qui bénéficie de la technologie Hackathon dont tu parleras un peu plus tard, mais aussi au niveau du data warehousing ou des cubes OLAP avec le moteur X-Velocity qui permet d'adresser pour le data warehousing des index de type column store qui existait déjà en version 2012 mais qui depuis la version 2014 ce sont aussi des index qui ont évolué et qu'on peut désormais mettre à jour. Au niveau du poste de travail, bah, y a le moteur X-Velocity existait déjà avant SQL Server 2014 au travers de Power Pivot. Donc ça nous permet de l'intégration de la donnée à son agrégation et sa production de reporting BI, d'adresser l'ensemble du cycle de vie de la donnée.
Donc maintenant, nous avons du début à la fin du traitement du cycle de vie de la donnée, la possibilité de tout traiter en mémoire et donc de gagner en performance sur tout le cycle.
Tout à fait.
Alors, on va justement parler de la nouveauté SQL Server 2014. D'ailleurs, tu as évoqué le mot sans qu'on en parle vraiment, donc Hackathon. Donc en fait, c'était le nom de code du projet de la technologie in-memory, qui n'est pas un projet tout neuf en fait. Hein. C'est arrivé en 2009, on a commencé à travailler dessus en 2009, avec un but tout simple finalement, c'était améliorer les performances. En partant d'un constat, c'est que ben, les disques durs grossissent en taille, mais en termes de rapidité, de vélocité, commençaient à stagner. En même temps, le prix de la mémoire vive commençait à baisser relativement, surtout devenait beaucoup plus accessible, et il était assez facile, et d'ailleurs aujourd'hui il est assez facile d'avoir des serveurs avec plusieurs gigas de mémoire, 75, 128 gigas de mémoire, va peut-être beaucoup plus, à un prix relativement abordable. Donc l'idée, c'était pourquoi pas utiliser donc ces nouvelles ressources matérielles pour essayer donc de gagner en performance et notamment de bénéficier de la vélocité de la mémoire vive. La solution, c'était de créer un moteur en mémoire. Donc l'idée de créer un moteur en mémoire, c'est de se dire OK, on va créer un nouveau moteur en mémoire, puis on va même carrément le repenser. Donc dans ce moteur en mémoire, finalement, les données vont être stockées en ligne. Il n'y aura plus de notion de page, ce qui fait qu'on va pouvoir se passer du buffer pool et donc pouvoir s'affranchir de tout ce qui est toutes les contraintes au niveau des page ledge. Ce qui fait qu'on va avoir une faible latence et surtout, on a travaillé sur le verrouillage des données. Jusqu'à maintenant, on avait un verrouillage plutôt pessimiste. C'est-à-dire, dès qu'il y avait une transaction qui arrivait, ça verrouillait les données pour être sûr que les données n'étaient pas modifiées pendant que la transaction était en cours d'exécution. Avec ce nouveau moteur, on est plutôt dans un verrouillage type optimiste, c'est-à-dire que la transaction arrive et ne va pas bloquer la donnée. Il va dire, finalement, il y a très peu de chances que les informations soient modifiées pendant que je travaille. Ce qui est très important, c'est que ce moteur en mémoire est complètement intégré à la version SQL Server 2014 entreprise. Donc, vous avez le produit, vous l'installez, vous avez le moteur en mémoire si vous le souhaitez. Alors, tu peux peut-être me poser la question, j'ai mes données en mémoire. Qu'est-ce qui se passe ?
En cas de crash.
En cas de crash. Et bien justement, on conserve les propriétés acides et notamment le dé de durabilité. Et on va le voir dans le slide suivant. On a mis en place un système qui permet justement de conserver l'intégralité des données en cas de problème ou de défaillance sur le matériel. Et puis, bien sûr, pour gagner en performance, les requêtes SQL sont compilées en mode natif. Alors, justement, pour la durabilité, le système de fichiers donc, a été repensé. C'est un peu basé sur la notion du file stream qui existait déjà dans SQL Server. Et là, l'idée, c'est d'avoir un système de fichiers que vous voyez ici sur l'écran décomposé principalement en trois fichiers. Donc, un fichier racine, le root file, qui va contenir en fait la correspondance entre les deux principaux fichiers qui sont les fichiers de données, les data files, et les fichiers de différence, de comparaison, qui sont les delta files. Le data file contient les données. Donc comme son nom l'indique. Et ce qui est important, c'est que les enregistrements sont ajoutés dans l'ordre des transactions. Et ça contient donc toutes les données dans le fichier avec des notions de timestamp lorsque les données sont rajoutées. Afin de pouvoir s'y retrouver dans ces fichiers de données, nous avons des delta files lorsqu'il y a des modifications qui sont faites sur les données, des updates, des délais, des inserts et tout ça. Donc les données ne sont pas réellement effacées du fichier data, mais elles sont juste marquées comme quoi il y a eu une différence ou il y a eu une modification et ça pointe vers le nouvel enregistrement ou le dernier enregistrement qui fait foi au niveau des données. On a aussi mis une nouvelle structure d'index, d'accord ? Donc les hash index. Par contre, ce qui est très important, c'est que les index résident maintenant uniquement en mémoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est stocké sur disque et l'index est construit lorsque les données sont montées en mémoire. Lors de la montée en mémoire, en même temps, les index sont construits. Et les index ne font que pointer sur les données. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, en fait, c'est finalement un petit peu l'architecture de SQL Server que vous connaissez actuellement aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez ici l'accès. Vos applications ont accès à SQL Server via le tabular data stream, donc le TDS, qui est le point d'entrée des applications. Et les applications, donc les requêtes qui vont être faites aux données, vont suivre le chemin pour, pourquoi pas dans un temps, regarder au niveau du buffer pool et des index. Et puis après, si jamais il y a besoin d'informations qui ne sont pas disponibles en mémoire, donc aller directement les chercher sur disque. Comme vous voyez, donc, nous avons nos deux groupes de fichiers, fichiers pour les données, donc où tous nos fichiers MDF et NDF vont être stockés sur disque ou alors les fichiers de journaux de transactions. Ce qu'apporte Hekaton, donc c'est un nouvel espace en mémoire. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de notion de buffer pool vu qu'il n'y a plus de notion de page. Toutes les données sont stockées en ligne de manière séquentielle. Et dans ce nouvel espace de mémoire, nous avons aussi un nouveau espace, un nouveau file group optimisé justement pour la technologie en mémoire. Vous savez, les fameux fichiers, le root file, data file et delta file. Lorsque vous migrez vos tables. Donc là, ici, en mémoire, je migre aussi bien les tables que les index. Par contre, sur disque, je vais ne migrer que les tables. Comme on l'a dit précédemment, les index ne résident que en mémoire, ce qui permet justement de gagner aussi en performance lors de la recherche ou des transactions donc sur les données. Alors, quand l'application va demander des données, finalement, l'application va toujours rentrer par le point d'entrée qui est le TDS et va suivre le chemin. Et puis, si jamais finalement une requête a besoin des informations qui se trouvent dans des tables en mémoire, il saura aller le rechercher directement car il sera en mode interopérabilité. Ce qui fait qu'une application, et ça sera complètement transparent, pourra aussi bien avoir accès aux informations qui se trouvent sur des tables classiques, des tables sur disque, que sur des tables en mémoire. Donc on sera vraiment en mode interopérabilité.
Et le tout transparent pour l'utilisateur et le développeur.
Exactement. Donc tu l'as bien dit, ce qui fait qu'une application aujourd'hui qui fonctionne avec SQL fonctionnera aussi avec des tables en mémoire en mode interopérabilité. Déjà, rien que dans ce mode-là, nous avons des gains de performance qui sont plutôt pas mal. Et on va vous le montrer dans quelques instants lors de la démonstration. Mais si on va aller plus loin, le moteur en mémoire peut être aussi installé en mode natif. C'est-à-dire que même les procédures stockées peuvent être redéveloppées, réécrites pour tirer pleinement parti donc, de ce nouveau moteur en mémoire. Donc les procédures stockées, elles peuvent être réévaluées, celles qui existent aujourd'hui peuvent être réévaluées pour voir si oui ou non elles vont fonctionner en mode en mémoire, mais dans la plupart du temps, il faut quand même les réécrire. Mais une fois que vous réécrivez ces procédures stockées, là vous allez être en ce qu'on appelle en mode natif et tirer pleinement de toute la puissance du moteur en mémoire. Cependant, même si l'application va continuer à rentrer ici par le TDS, lorsque vous serez en mode natif, les procédures stockées que vous aurez écrites ne seront plus capables d'aller attaquer les bases qui sont sur disque. Par contre, en termes de performance pour tout ce qui est de mémoire, là vous allez considérablement gagner en performance dans ce mode-là. Alors, ce n'est pas super évident, mais vous avez dû voir apparaître ici « Non-Durable Table ». Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc, même si on conserve les propriétés acides des transactions, on peut jouer sur la durabilité des tables. On peut très bien dire, eh ben, dans ce cas-là, moi, je veux que mes tables ne soient pas durables, c'est-à-dire qu'elles restent complètement en mémoire. Ça veut dire que si vous arrêtez, vous redémarrez votre machine ou qu'il y a une défaillance sur le matériel, vous perdez toutes les données qu'il y a dans les tables. Mais il y a certains scénarios où conserver les données n'a aucun intérêt, notamment pour les tables de staging lorsque vous êtes sur un flux ETL. C'est juste des tables tampons. Là, il y a besoin beaucoup de performance. Ben, on regarde tout en mémoire, on ne stocke rien sur disque. Et donc, on peut débrayer cette notion de durabilité si vous le souhaitez. Alors, comment on crée une table in-memory? En fait, c'est pas très compliqué. En fait, ça reste un Create Table, ici. Donc, quelque chose d'assez connu. Avec, par exemple, en particularité, le fait de pouvoir déterminer qu'on veut que ce soit une table optimisé pour la mémoire, donc memory optimize égale on. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut jouer sur la durabilité. Durabilité schéma on data ou schéma only. On ne garde que le schéma, les données ne sont pas durables, juste le schéma devient durable. Ensuite, on va créer donc le nouvel index. Donc, il faut bien penser à réserver la place nécessaire en mémoire pour créer les différents index. Donc, on peut en créer plusieurs si besoin. Alors, on l'a dit en introduction, cette technologie en mémoire est nativement intégrée à la solution. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire vos backups et vos restores comme vous faites d'habitude. Donc, c'est complètement supporté. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi mettre en place des solutions de haute disponibilité ou de disaster recovery, comme par exemple le failover clustering. Avec une petite particularité sur ce point-là, c'est que lorsque les serveurs vont basculer, il faudra prendre en compte le fait que les tables remontent en mémoire. D'accord, donc ça peut prendre un certain temps, surtout s'il y a beaucoup de données à remonter en mémoire, sachant qu'en plus, lorsque les données montent en mémoire, les index sont reconstruits. Donc le temps de bascule peut prendre un certain temps.
Il faut planifier l'opération, en gros.
Il faut planifier l'opération ou alors utiliser donc une nouvelle solution qui a été apportée finalement avec SQL Server 2012, qui Always On, groupe de disponibilité, qui permet donc d'avoir plusieurs secondaires, un ou plusieurs secondaires actifs, et ce qui fait que les tables sont déjà en mémoire, ce qui fait que lorsque vous basculez du serveur primaire vers le serveur secondaire, le temps de bascule est quasiment instantané, c'est peut-être une 10-20 secondes, et vous êtes de nouveau opérationnel sur le serveur secondaire. Bien sûr, tout est supporté en termes donc, de supervision, management des tables, hein, tout ce qui est DMV, Data Management View, les catalogues, les X-Event. Bien sûr, c'est administrable depuis Management Studio, et ça, on le voit dans quelques instants dans la démonstration. Et puis, pour aider, donc, il y a des outils d'aide à la migration qui s'appellent l'AMR, Analyse, Migrate, and Report Tool. Donc, le mieux, mon petit Bertrand, c'est d'aller sur la démonstration. Alors, ici, donc, je vais aller dans mon Management Studio, voilà, où on voit ici que j'ai une base de données Ticket Reservations, qui est une base de données classique sur disque, comme on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et ce que je vais faire ici, je vais utiliser une petite application qui va me simuler des achats, des annulations de vente ou d'achat de tickets pour une compagnie aérienne, par exemple. Ce que l'on voit ici, c'est... Donc là, je démarre l'application. Donc c'est les transactions qui sont faites sur mon appli et surtout l'usage de mon processeur qui n'est pas complètement utilisé. Mais surtout, on voit que les verrous, les latches par seconde, sont très importants sur ma table. Donc là, c'est des transactions classiques en verrouillage pessimiste. Donc là, dès qu'une transaction arrive pour faire ces manipulations, va verrouiller la page et les autres transactions vont être obligées d'attendre. Ce que l'on va faire maintenant, donc là je vais faire stop, je vais revenir côté Management Studio et puis je vais passer en mode interop. C'est-à-dire que je vais juste modifier ma table, donc plus précisément je vais recréer ma table pour qu'elle soit en mode mémoire optimisée. Donc ce que je vais faire, je vais exécuter le script et pendant que le script s'exécute, donc je vais juste vous montrer, donc voilà il s'est exécuté, voilà c'est ici où justement j'utilise, où je précise que je veux que ça soit Memory Optimize On et je veux que ça soit durable, schéma on data, d'accord. Donc j'ai le schéma et les données. Donc maintenant que j'ai migré ma table en table en mémoire, sans fermer l'application, c'est tout le temps la même application, donc je vais lui dire maintenant, voilà, pars, et utilise la table en mémoire. En fait, je dis utilise la table en mémoire, il ne le sait pas lui, il rentre toujours par le TDS et puis hop, il continue à faire ses transactions. Qu'est-ce qu'on constate? Déjà un gain de performance assez important, donc je suis entre x3, x4, je suis passé de 1200 à presque 5000 transactions par seconde et surtout je vois que mon processeur maintenant qu'il est à 100% et en termes de verrou, j'en ai quasiment plus. Alors là, j'ai juste migré ma table en mode in-memory.
On n'est pas encore natif.
On n'est pas encore natif. Pour être natif, il faut aussi que je réécrive ma procédure stockée. Donc ici, ce que je vais faire, je vais passer en mode natif. Donc là, c'est mes procédures stockées qui vont être en native compilation. Okay. Et là, ici, je vais donc tout simplement exécuter ce script. Une fois que le script a été exécuté, je relance mon application. Ici, voilà. Et je relance ici, donc je clique sur Start. Et voilà, donc j'ai à peu près x9, x10 en termes de performance, parce que là, je suis en mode natif, full in-memory, aussi bien la base donnée que mes procédures stockées. La démonstration se fait sur mon portable. Hein, donc déjà, j'arrive à avoir x10 sur un simple portable. Donc imaginez sur des serveurs dimensionnés, justement, pour recevoir des bases de données. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer donc sur cette première partie, donc sur la technologie in-memory. Et donc on va continuer ce webinar avec la seconde partie qui va être tout ce qui est finalement SQL Server est aussi une plateforme qui est prête pour tirer parti et bénéfice de ce que propose le cloud et notamment dans des solutions cloud hybrides. Donc mon petit Bertrand, tu as peut-être des choses à nous dire justement sur ces scénarios hybrides avec SQL Server 2014.
Tout à fait. Donc comme on vient de le mentionner, SQL Server 2014 est une plateforme qui a été également conçue pour pouvoir prendre en compte tout ce qui est scénarios hybrides. Donc des scénarios qui vont être en partie on-premise et sur une autre partie dans le cloud Azure. Donc d'abord je vais faire un petit rappel de ce qu'est SQL Server dans Azure. Donc il y a un mode IaaS, Infrastructure as a Service, avec les VM présentes dans Windows Azure, VM sur lesquelles on va pouvoir installer SQL Server avec l'ensemble des briques qui permettent de faire de la BI. Et on a aussi le mode PaaS, Product as a Service, avec les SQL Database, pour pouvoir les consommer en tant que service directement. Donc en mode IaaS, on va plutôt l'utiliser pour tout ce qui est scénario de backup ou de disaster recovery, tout ce qui est haute disponibilité donc, ou pour les sujets BI avec l'installation donc, et l'utilisation des briques BI dans des VM Azure. Et le mode PaaS, ça va être plutôt pour du stockage et de la gestion de données et pouvoir faire aussi pointer des applications en direct dessus. Donc une des questions qui nous est régulièrement posée, c'est où se trouvent les données lorsqu'elles sont hébergées dans Windows Azure. Donc pour l'Europe, les data centers sont sur Dublin et Amsterdam. Ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que le cloud Azure est le premier à avoir obtenu l'agrément de l'Union européenne comme rentrant dans les conditions édictées donc par l'Union européenne pour tout ce qui était sécurité et confidentialité. Et l'Union européenne a même mentionné qu'en fait Microsoft allait encore plus loin que ce qui était proposé, donc garantissait vraiment une sécurité des données. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les produits Microsoft, lorsqu'ils sont installés sur du cloud Azure sont supportés. Lorsqu'ils sont installés sur d'autres clouds, ils ne sont pas supportés. Donc un point aussi à noter concerne les SLA Azure. Celles-ci sont au niveau mensuel, alors que sur d'autres offres qui sont sur le marché, elles sont au niveau annuel. C'est une incidence non considérable parce que quand les SLA qui stipulent des niveaux d'indisponibilité sont au niveau annuel, on peut par exemple se retrouver sur d'autres offres avec un mois d'indisponibilité en continu et rentrer tout à fait dans le cadre des SLA puisque le reste de l'année, il n'y a eu aucun souci a priori. Alors qu'au niveau du cloud Azure, c'est a priori, pour faire grosso modo, une journée d'indisponibilité maximum par mois. Donc on a une plus grosse garantie de disponibilité. Et aussi, on a un SLA par service. Donc on a une garantie par service dans Azure.
D'accord. Donc faire attention à cette subtilité à l'année ou au mois.
Voilà, c'est en général ce qui est écrit en petit en italien et en bas du contrat.
Alors, différents scénarios dans Azure.
Donc, les différents scénarios, c'est non exhaustif, bien entendu. Donc, on a vu, il y a le mode IaaS, donc Infrastructure as a Service, avec des VM qui sont dans Azure, et le mode PaaS en tant que Product as a Service. Donc, en mode IaaS, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple migrer tout ce qui est nos applications 2/3 dans Azure. On va aussi pouvoir mettre en place très rapidement des environnements de développement et de test, des environnements qu'on va souhaiter temporaires, donc pour un gain, pour un besoin immédiat ou pérenne qu'on va utiliser régulièrement et à la demande. Tout ce qui est scénario donc de backup dans le cloud, comme on pourra le voir un peu plus tard, ou pour étendre nos capacités à un moment donné lorsque notre activité accroît considérablement sur un instant T. Donc ça, c'est des scénarios non exhaustifs en IaaS. En mode PaaS, donc on va pouvoir utiliser les SQL Database pour, par exemple, développer de nouvelles applications qui vont pointer directement donc, sur ces SQL Database, ou aussi pour pouvoir étendre nos besoins en capacité si besoin. Mais ce n'est pas tout. On a aussi dans Azure la possibilité de faire du prédictif avec Azure Machine Learning. Et avec ce prédictif, donc de les lier avec de données de la BI et proposer des informations encore plus pertinentes. Et aussi, pourquoi pas, pouvoir monter des bases Oracle sur Azure pour des besoins ou des applications existantes et ainsi le déporter dans le cloud.
Ou aussi provisionner des clusters Azure Insight, dont on verra dans
de la double dans Azure.
Donc Azure propose toute une panel de solutions pour traiter l'ensemble des données, qu'elles soient structurées, non structurées, faire des prédictions, faire du big data avec des solutions Hadoop, que l'on verra dans quelques instants.
D'adresser des scénarios, on va dire classiques et déjà existants, ou les scénarios nouveaux et du futur. Donc, comme on vient de le mentionner pour les scénarios hybrides, on peut faire des backups dans le cloud. Ceci de manière manuelle ou automatique, et ce, à travers un outil qui est bien connu de tous les DBA, qui est SSMS Management Studio, puisque l'intégration dans le cloud, l'intégration Azure, a été faite directement au niveau de Management Studio. Donc, à partir de règles qu'on va mettre en place au niveau de nos instances SQL Server On-Premise, toutes les bases de données sous cette instance vont pouvoir bénéficier de ces règles et donc backuper automatiquement sur nos services dans le cloud pour lesquels on aura rentré l'ensemble des informations de configuration. On va aussi pouvoir mettre en place tout ce qui est scénario de disaster recovery, comme on en a parlé, avec on-premise notre serveur synchrone. Et à chaque fois qu'une transaction sera committée sur ce serveur, elle sera automatiquement répliquée de manière asynchrone sur un ou plusieurs réplicas, comme on a pu en parler tout à l'heure, par exemple avec Always On. Et enfin, Azure, c'est une couverture qui est au niveau mondial. Qui dit niveau mondial, c'est déjà une garantie que si un des data centers, comment dire, tombe, nos données seront toujours présentes puisqu'un ou n autres data centers prendront le relais. Mais c'est aussi de pouvoir proposer un accès à nos données pour nos applications au plus près de l'application. Si on a des clients qui utilisent des applications aux États-Unis, il sera plus simple de les adresser sur des data centers qu'ils ont aux États-Unis que sur des data centers qui sont en Europe. Donc on a une meilleure répartition, isolation de l'intégralité de nos données et de l'accès à celles-ci.
Donc on peut imaginer de mettre en place une solution SQL Always On, groupe de disponibilité, sur deux régions Azure, par exemple.
Tout à fait.
D'accord, très bien. Alors tout ça, c'est intégré dans Management Studio.
Voilà, avec un ensemble de wizards donc, qui vont vous permettre de faire vos backups, de mettre en place vos réplicas sur vos, bah, sur vos VM dans Azure. Donc, je vais dire, un simple clic droit et Next vous permettront de le faire. Et effectivement, le fait que ce soit dans Management Studio, bah, ça n'est pas un outil supplémentaire à prendre en main pour les DBA. Et bah donc, comme je l'ai mentionné, de pouvoir avoir un contrôle total sur donc nos outils dans Azure via Management Studio et aussi de bénéficier bah, de l'ensemble des fonctionnalités SQL qu'on avait déjà auparavant, mais qu'on va, au lieu de les adresser sur du SQL on-premise, de pouvoir les adresser sur nos instances qui sont dans le cloud, que ce soit en IaaS ou en PaaS.
D'accord. Bah écoute, le mieux, c'est de faire quelques petites démos. Donc là, on va passer en mode démo hybride.
Alors, nous allons maintenant illustrer nos propos par une démonstration montrant comment SQL Server peut s'intégrer donc avec le cloud, notamment pour réaliser des scénarios hybrides. Alors, on a parlé de plusieurs choses, hein, de backup, de déploiement sur notre service Azure SQL ou directement dans les machines virtuelles. Bien entendu, on ne va pas faire toutes les démonstrations ici, mais on va quand même en faire une ou deux. Alors, ici, je suis dans mon Management Studio. Et si je clique sur un bouton droit sur ma base de données, dans le menu contextuel task, donc je vais avoir accès ici à plusieurs choses, notamment la possibilité de déployer ma base de données sur du Azure SQL Database ou directement dans une machine virtuelle Azure. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par la première option ici, Deploy to Azure SQL Database. Et donc un assistant apparaît et va vous aider donc justement dans l'utilisation pour déployer justement vos bases données ici dans Azure SQL DB. Alors ici, il nous demande de nous connecter. Donc il nous demande de nous connecter à notre serveur qui se trouve dans le cloud. Donc pour ma part, donc, je vais utiliser celui-ci. En fait, c'est le nom de mon serveur qui se termine par database.windows.net. Donc je vais vous montrer après comment on retrouve ces informations pour lorsqu'on connecte pour la première fois. Puis il nous demande les informations de connexion. Donc je vais faire connect. Donc là, je vais lui donner un nouveau nom. In Azure DB, pourquoi pas. Voilà. Et je vais faire next tout simplement. Et je vais envoyer donc la publication vers Azure SQL DB. Donc là, tout est en train de bien se passer. Donc je vais aller du côté de mon portail Azure et ici, donc je vois mes différentes bases de données. Et donc j'ai plusieurs onglets ici, mes bases de données et mes serveurs. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, moi ici, j'ai pris ce serveur pour mon déploiement. Donc en fait, j'ai juste à cliquer dessus, je vais dans mon tableau de bord et je récupère en fait tout simplement les informations ici. Moi, je récupère le nom de mon serveur à ce niveau-là. Et derrière, je rajoute le suffixe que je vous montrais tout à l'heure. Dans le cas où on oublie le suffixe, il suffit de revenir sur une des bases ici. Donc là, je fais attention à mon serveur. Je clique sur une base, donc par exemple, From AirTest. Et là, enfin, je récupère l'ensemble des informations, database.windows.net. C'est ce qu'il faut passer au Management Studio. Alors, je reviens au niveau de mon assistant. L'opération est terminé. Donc ce qui fait que si maintenant je reviens ici au niveau de mes bases données, si tout va bien, voilà, j'ai mon From Air Azure DB. Donc je peux cliquer dessus. Donc j'ai accès à tout un tas d'informations, mais j'ai aussi la possibilité maintenant en étant en ligne, donc via mon portail Azure, de pouvoir gérer ma base donnée. Donc ici j'ai une sorte de Management Studio accessible en mode web. Donc hop, je vais y accéder. Voilà. Donc juste pour vous montrer cette interface et ce qu'il est possible de faire. Donc là ici, j'ai ouvert ma base, donc j'ai plusieurs options, dont des options de conception. Et là, je récupère donc mes différentes tables. Et typiquement, si je vais dans Product, donc je peux modifier et j'ai aussi accès donc à tout un tas de choses, dont aussi la possibilité d'avoir accès à mes données. Alors ça, c'était pour illustrer le déploiement vers Azure SQL Database. Maintenant, nous allons voir donc le déploiement vers une machine virtuelle. Donc ici, l'assistant me propose de déployer dans une machine virtuelle. Donc moi, j'ai créé une machine virtuelle dans Azure qui est disponible ici, voilà, qui s'appelle SQL 2014 Deployment. SQL 2014 Deploy pour être beaucoup plus précis, et dans laquelle, donc pour le moment, je n'ai aucune base de données à part les bases système, voilà. Et on va déployer dans cette base de données. Cette machine virtuelle a été créée donc depuis la galerie Azure, donc ça c'est important parce que ces machines virtuelles comportent le service qui s'appelle le Cloud Adapter, donc je peux vous le montrer en fait. Ici, quand je vais dans Tools, Service. Donc ce déploiement fonctionne parce que les machines virtuelles embarquent un service un peu spécifique, donc que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc c'est le SQL Cloud Adapter. Donc il faut vérifier justement qu'il soit bien démarré. Donc là c'est le cas. Donc nous avons toutes les conditions pour réaliser un bon déploiement. Alors, je reviens donc sur mon assistant. Je vais faire Next. Donc là, il me demande de me connecter. Alors, le petit piège, c'est que là, en fait, il demande la connexion au serveur local à partir duquel on souhaite faire le déploiement. Je vais prendre ma base FrontMer Demo. On va définir sur site un endroit où il pourra faire ses opérations de backup et de compression avant d'envoyer les informations dans le cloud. Next. Donc là, en fait, il nous demande de choisir notre souscription. Si vous ne l'avez pas, il faut télécharger un publishing profile file, fichier de publishing qui se trouve sur le portail Azure. Et puis, une fois que vous l'avez importé, vous aurez accès ici à l'ensemble de vos comptes. Donc moi, je vais prendre ce compte-là. Je vais faire Next. Et là, donc, par rapport au compte qu'on lui a spécifié, il pourra regarder l'ensemble des machines virtuelles qui sont disponibles. Donc moi, je vais prendre ma machine SQL Azure Deploy. Donc là, plus précisément, le Cloud Services. À ce Cloud Services peuvent être liées une ou plusieurs machines virtuelles. Et on peut choisir aussi un compte de stockage. Donc là, moi, je vais prendre voilà, ce compte de stockage. Et ce qui est très important, donc là, effectivement, on peut peut-être rater cette étape. Lorsqu'on utilise cette assistance, il faut bien penser à cliquer sur Settings et lui donner un compte qui a le droit donc de se connecter et à la machine virtuelle et au serveur SQL. Donc vous voyez ici, on retrouve le port du Cloud Adapter qui est le 11.435. Donc là, je vais faire OK. Voilà, et puis je vais lui donner un autre nom. Voilà, donc première démo in the cloud. Faire next. Et on va lancer le déploiement vers une machine virtuelle qui se trouve dans le cloud. Alors, nous allons faire un refresh. Et au bout de quelques instants, voilà, donc on voit notre base qui a été déployée dans notre machine virtuelle, hein, donc qui se trouve ici, bah, bien sûr, dans le cloud. Et donc, si maintenant je navigue un peu dans ma base, donc je retrouve mes tables, et si je regarde un peu ce qui se trouve dans mes produits, donc je devrais récupérer en plus toutes les informations dans mes tables. D'ailleurs, ce qui est une bonne chose.
Donc on va continuer notre présentation, Bertrand, et on va passer à la partie plus purement Big Data.
La plateforme pour le big data.
Avec, dans un premier temps, donc HD Insight qui est en fait Hadoop pour Windows. Donc on va faire un petit point de terminologie Hadoop. Donc Hadoop, c'est un framework Java libre qui est destiné à faciliter la création d'applications distribuées et échelonnables. Ça repose sur un système de fichiers qui s'appelle HDFS, donc qui est la couche de stockage des données pour Hadoop, mais ces données peuvent être aussi dans Azure. Le tout est accessible avec ce qu'on appelle MapReduce, qui est la possibilité d'adresser nos données qui sont donc dans ce HDFS d'une manière parallèle, avec une stratégie de parallélisation. Et enfin, il y a deux principaux langages de programmation qui vont nous permettre d'analyser nos données. Il y a le Hive, qui a une syntaxe très proche du SQL, avec du Hive SQL. Et le PIG, qui lui est plutôt du pseudocode, qui fait donc c'est un langage d'abstraction. Donc avec cet ensemble, on a, on va dire, l'ensemble de ce qui compose, si on peut dire ainsi, Hadoop. Donc si on regarde un petit peu l'ensemble de ce qu'est HD Insight, donc Hadoop dans Windows, donc on a HDFS, comme on vient de le voir, le système de fichiers, mais on a aussi les données qui proviennent d'Azure. Pour adresser l'ensemble, on a un framework qui s'appelle Yarn, qui va permettre d'étendre un peu plus loin ce que permet de faire du MapReduce. Donc il va permettre de faire du MapReduce, du Hive, du PIG, comme on a pu le voir, du HCatalog, Ambari, HBase, etc., mais aussi de pouvoir faire du Storm. De Storm, c'est pour faire simple du event processing, un peu comme on l'a vu avec Stream Insight, mais là pour du Hadoop et dans le cloud. Ces données, on va pouvoir les adresser de quelle manière? Ben, on va pouvoir y avoir accès via le portail Azure. On va aussi pouvoir y avoir accès pour les développeurs via un SDK qui est mis à disposition, ou des applications tierces comme Templeton, ou de manière vraiment très simple via du remote desktop. Ces données, ensuite, on va pouvoir les proposer pour de la BI, de l'analyse en libre service ou en collaboration. Donc, HD Insight, c'est Hadoop dans Azure, comme on vient de le voir. La force de cette solution, c'est d'avoir une solution qui est déjà développée main dans la main entre Microsoft et les développeurs de solutions Hadoop comme Hortonworks ou Cloudera, qui sont les deux principaux éditeurs avec lesquels Microsoft travaille pour sa solution HD Insight. Ça va aussi permettre de bénéficier de tout l'écosystème Microsoft et donc d'utiliser des outils familiers, une fois de plus Excel par exemple, pour pouvoir attaquer nos données qui sont dans Hadoop, les travailler et proposer du reporting au final. Il y a une souplesse de déploiement puisque comme c'est un service Azure, on se connecte au portail, on va provisionner un nouveau cluster HD Insight, mais on n'a pas d'installation proprement dite à prendre en charge. HD Insight aussi répond à tout ce qui est exigence en termes de contexte sécurité et manageabilité de notre cluster Hadoop. Et en plus aussi va pouvoir enrichir l'expérience des développeurs puisque en plus du Java, les développeurs vont aussi pouvoir attaquer de l'Hadoop en .NET. Comme j'ai pu le mentionner juste avant, Microsoft est contributeur d'Hadoop. Donc, ils travaillent main dans la main avec les éditeurs. Hortonworks est l'un d'entre eux. On va pouvoir retrouver le Hadoop d'Hortonworks sur du Windows Server ou du Linux, ou encore sur une région HD Insight dans l'appliance APS que l'on va voir plus tard, ou dans le Azure Marketplace. Et Cloudera, distribution, est donc un autre éditeur que l'on va aussi pouvoir retrouver sur le Marketplace.
Merci Bertrand pour ces explications. Donc ce que je te propose, c'est de faire une petite démonstration.
Alors, c'est parti pour la démo HD Insight. Donc, dans cette démonstration, nous allons tout simplement récupérer des logs qui sont fournis par Wikipédia pour les analyser donc avec HD Insight, et avec le langage PIG pour pouvoir ressortir dans un rapport Excel les pages qui ont été le plus consultées entre 13h et 14h aujourd'hui, mardi 6 janvier. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon portail Azure. Dans mon portail Azure, j'ai déjà ici un cluster HD Insight qui s'appelle DemoWiki. D'accord ? Ce cluster HD Insight, en fait, je l'ai créé à partir de mon portail Azure en cliquant simplement sur le bouton Nouveau, Service de données, HD Insight, Hadoop. D'accord ? Donc ici, je vais faire la création rapide. Je donne un nom. Je choisis la taille de mon cluster. Je donne un mot de passe pour le compte admin et je choisis le compte de stockage qui va être associé à mon cluster HD Insight. Ce compte de stockage va permettre de pérenniser les données, c'est-à-dire qu'une fois que votre cluster HD Insight va être détruit, vous pourrez toujours avoir accès à vos données vu qu'elles seront stockées dans un compte de stockage indépendant de votre cluster HD Insight. Alors, une fois que votre cluster a été créé, donc ça prend à peu près entre 10 et 15 minutes la création de votre cluster HD Insight. Donc on peut cliquer dessus bien entendu, avoir accès au tableau de bord et à l'ensemble des informations, pouvoir avoir accès donc tous les outils pour le surveiller, mais aussi pour faire sa configuration et notamment pour activer la connexion à distance. Donc c'est ici qu'on va pouvoir activer la connexion à distance en cliquant sur le bouton activer. Et une fois que vous l'avez activé, donc vous pouvez vous connecter. Et une fois connecté, donc vous arrivez dans votre console d'utilisation de votre cluster HD Insight via Remote Desktop Connection. Alors ici, ce que l'on va faire, on va aller copier les fichiers venant du site Wikipédia qui propose les logs. Donc si je reviens ici sur mon navigateur, voilà, j'ai déjà préparé. Donc ici, là, j'ai accès à tous les logs par jour et en fonction des heures au log Wikipédia. Donc je reviens dans mon cluster HD Insight et je vais vous montrer donc avec un petit PowerShell. Voilà. On va copier donc les informations entre 13h et 14h sur les dumps Wikipédia en 2015 pour la journée d'aujourd'hui, donc 2006. Hop, donc c'est parti. Et je vais lancer tout simplement la copie. Alors, au bout de quelques minutes, on récupère nos fichiers qui viennent de Wikipédia. Donc là ici j'en ai récupéré deux d'à peu près une centaine de mégas chacun. Alors ce que l'on va faire ici, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais je détruis mon cluster HD Insight, je perds mes données. Mais lors de la création de ce cluster HD Insight, nous avons associé un compte de stockage Azure. Ce compte de stockage Azure, on va l'utiliser pour sauvegarder ces fichiers dans notre compte de stockage. Alors ce que je vais faire ici, je vais utiliser les lignes de commande ici. Et dans les lignes de commande, je vais par exemple, moi je choisis d'utiliser Pig. Donc je vais me mettre à la racine de Pig. Voilà. Et je vais aller dans le dossier bin pour exécuter Pig. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, on va lui dire, on va copier nos informations qui se trouvent en local. Donc, copy from local sur notre disque dur, ces deux points, donc le disque dur du cluster, dans le répertoire démo wiki. Et je vais tout simplement donc le copier sur mon compte de stockage. Alors, où est-ce que les données vont être envoyées? Donc voilà, donc là la copie est terminée. Si j'utilise un outil de type Cloud Explorer et que je me connecte sur mon démo wiki, donc si je vais au niveau des utilisateurs, voilà, donc j'ai un dossier Framer qui est apparu. Et si je clique dessus, voilà, je récupère mon dossier démo wiki dans lequel j'ai mes fichiers. D'accord? J'ai même mon script d'ailleurs qui a été copié. Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va lancer l'exécution du traitement de nos données. Alors, on va traiter nos données avec un script ici en Pig, donc que je vais un petit peu modifier pour lui donner le bon chemin. Donc, c'est Demo Wiki. Je vais aller vérifier ça hop, rapidement. C'est ça, Demo Wiki, voilà. Donc, je vais prendre ce script en Pig. Et je vais l'exécuter ici. Donc là, je le colle, paste. Je lui envoie donc les informations pour pouvoir me traiter mes données. Alors, je vais vous expliquer bien entendu ce qui se passe. Donc, ici, ce qu'on lui dit, alors là, nous sommes en langage Pig, donc un langage d'assez haut niveau. Et ici, on va, dans la première étape, définir une variable qui s'appelle record, où on va lui passer le chemin vers les fichiers à traiter. Donc là, je lui passe les chemins vers mon compte de stockage. Et je vais lui dire, bah voilà, le séparateur va être l'espace. Et dedans, les données que tu vas trouver. Donc c'est la manière de parser finalement. Ça va être le projet, qui est de type char array, la page, le nombre de requests. Donc là, dans le fichier brut que Wikipédia nous donne, ça sera toujours 1, parce que c'est dès qu'une personne se connecte, hop, il log. Et la taille de la page qui a été consultée. Alors, cette variable record va se retrouver donc ici dans notre cas dans la ligne du dessous. Elle va être injectée dans une autre variable qui s'appelle Filtered Records. Et là, effectivement, on va filtrer l'ensemble des informations, des données que l'on récupère pour ne sortir que les pages anglaises et françaises. D'accord? Cette variable Filtered Records, on va la retrouver donc plusieurs fois, notamment ici pour grouper nos enregistrements par page et par projet. D'accord? Typiquement, les pages de Walking Dead qui ont été consultées dans la langue anglaise. Et puis ensuite, on va faire la somme. Donc, s'il y a eu 100 internautes qui ont consulté la page Walking Dead en anglais, au lieu d'avoir 100 lignes, donc il va nous faire la somme pour ne plus avoir qu'une seule ligne avec la somme qui correspond à 100. On va ordonner le résultat, on va définir une limite. En fait, on va récupérer que les 1000 premiers enregistrements pour éviter d'être pollué sur notre rapport final. Parce qu'après, on va faire un rapport dans Excel pour avoir éviter d'avoir des pages où il y a juste eu un seul hit. Et on va mettre tout ça dans le dossier qui s'appelle WP janvier 2015. Voilà, donc c'est ce que va faire notre langage PIG pour traiter nos données. Alors, si je reviens côté cluster, donc là, ici, je suis dans mon HD Insight. Donc là, les commandes ont l'air de bien se passer. Ce qui est intéressant, c'est que dans HD Insight, on fournit l'ensemble des éléments pour pouvoir monitorer, voir ce qui se passe, etc. Lors du traitement de nos données. Donc ici, donc là vous avez plusieurs pages web sur le côté. Donc si je clique la première, donc juste pour vous présenter ça. Hop, ok. Donc ici nous avons des informations sur notre cluster. Les nœuds utilisés. Nous avons donc nos différents data nodes, quand est-ce qu'ils ont été contactés pour la dernière fois, le travail qu'ils sont en train d'effectuer, etc. Bon bref, vous avez accès donc à plusieurs types d'informations, donc types de tableau de bord pour pouvoir monitorer votre cluster HD Insight. Donc dans cette page ici, donc dans la troisième, j'ai pris le Hadoopian Status, vous avez accès un peu plus de détails sur les travaux qui sont en train d'être réalisés. Donc là moi j'ai un job là qui est en running et après donc on peut naviguer dans le détail de vos différents jobs. Donc tout ça pour vous dire que l'on fournit les informations pour pouvoir monitorer votre cluster HD Insight. Donc on va attendre que le traitement se termine pour pouvoir voir ensuite comment exploiter nos données. Voilà, donc après quelques minutes de traitement, donc ici nous sommes en succès, donc tant mieux pour la démo, nous avons donc récupéré normalement un fichier avec des données exploitables, du moins comme on l'a demandé en termes d'agrégation, de filtres, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc si je reviens dans mon outil Cloud Explorer et que je lui demande de me faire un refresh, je me retrouve donc avec mon dossier janvier 2015 et avec dedans deux nouveaux fichiers. Donc ici, j'ai un fichier qui s'appelle par R0000. Comme ça, je ne peux pas l'exploiter. Par contre, je vais utiliser un autre outil pour essayer d'en faire quelque chose d'exploitable. Donc, je vais utiliser Excel pour récupérer mes données. Hop. Et plus précisément, je vais le faire avec Power Query. Alors, avec Power Query, ici, vous pouvez avoir accès à tout type d'informations, tout type de sources de données. Et moi, ici, je vais aller tout simplement aller chercher mes données depuis un serveur HD Insight. Donc en fait, il vous demande plus précisément l'adresse de votre Azure Blob Storage associée à votre cluster. Donc dans mon cas, ici, c'est Frammer HD Demo. Donc je clique sur OK. Et il va me récupérer l'ensemble de mes informations. Alors, comme c'est pas la première fois que je me connecte, hein, vu que cette démo j'ai déjà fait plusieurs fois, si entre-temps, la première fois que je me suis connecté, il m'a demandé la clé de mon compte de stockage. Cette clé, vous pouvez la récupérer sur le portail Azure lorsque vous êtes sur votre compte de stockage quand vous cliquez en bas sur Manage. Alors, ici, je vais avoir accès à mon dossier Demo Wiki. Voilà. Et dans mon démo wiki, donc je vais chercher un fichier qui s'appelle par R00 que je trouve ici. Et donc si je désélectionne tout et que je vais tout en bas, je dois trouver donc un fichier qui s'appelle par R00. Il est là. Et maintenant, donc si je clique sur binaire, il va m'ouvrir le fichier. Donc voilà ce que je récupère. Donc effectivement, je retrouve bien le nom des pages, la main page, la langue et le nombre de hits sur cette page-là. Sauf qu'en l'état, ce n'est pas encore super exploitable. C'est là où Power Query va pas mal nous aider. Dans un premier temps, je vais lui dire, tu vas me séparer les colonnes par délimiteur ou par nombre de caractères. Donc moi, je vais prendre par nombre de caractères à la droite, le plus possible à droite. Et je vais en prendre 3. Le but étant ici pour moi d'isoler la langue. Donc je vais remplacer une autre valeur qui est la parenthèse fermante par rien du tout. Voilà. Et je vais appeler ça langue. Voilà. Je vais faire de même ici pour les pages qui ont été consultées. Donc dans un premier temps, je vais lui demander de me remplacer les valeurs ici, la virgule, pas rien du tout. Voilà, c'est mieux quand on clique. Je vais lui demander de me remplacer la parenthèse ouvrante, pas rien du tout. Donc le but est de nettoyer les données. Voilà, j'ai quelques parenthèses fermantes encore dans mon jeu de données. Je vais tout simplement les retirer aussi. Voilà. Bon bref, hein, tout ça c'est du nettoyage. Et ici, je vais dire, voilà, c'est les pages et là, c'est les hits. Donc on pourrait faire hein, beaucoup mieux, hein, beaucoup plus propre, mais là c'est juste pour vous montrer le résultat final. Donc ici, je renvoie les données. Voilà, donc je suis dans un simple tableau et je vais pouvoir en faire un tableau croisé dynamique. Voilà, et dans ce tableau croisé dynamique, je vais tout simplement lui dire, bah, montre-moi les pages, le nombre de hits. D'accord, donc je vais hop, mettre en forme tout ça. Voilà, ramener ici. Hop, je vais faire un clic droit ici dans les options de ma table et lui dire, tu vas pas à chaque update me réagrandir la table ou du moins la redéfinir les dimensions. Et ce que l'on va faire ici, on va utiliser une fonctionnalité donc d'Excel qui est tout simplement le segment ou le slicer. Et afin de pouvoir naviguer dans les pages, on va faire une dernière petite chose. On va lui dire bah, les données, tu vas me les trier par ordre décroissant. Et ce qui va nous permettre maintenant de voir rapidement entre 13h et 14h les pages Wikipédia qui ont été le plus consultées en anglais. Donc ici en anglais, donc il y a toutes ces pages-là. Hein. Donc on peut regarder le NASA, la NASA, ce qu'on a vu tout à l'heure, Google, United States, Gotham TV Series, etc. Et si on veut faire la même chose en français, donc bah, c'est Scooby-Doo, pourquoi pas. Accueil, Toulon, Facebook, etc. Donc voilà, donc avec HD Insight. Dans cette démonstration, ce que je viens de vous montrer, c'est la possibilité de récupérer des informations, de les traiter et de les rendre exploitables dans un outil simple et familier, comme Excel.
Donc ce que l'on va faire maintenant, on va continuer donc notre présentation avec la quatrième et dernière partie.
L'appliance APS,
Exactement.
Analytic Platform System. Donc avant de rentrer un peu plus en détail sur ce qu'est exactement APS, on va faire un petit retour en arrière, ou plutôt un constat de où on en était jusqu'à pas très longtemps, sur les infrastructures qui sont en place. Donc on a des problèmes qui sont souvent rencontrés sur l'évolutivité des structures, parce qu'on a des architectures très monolithiques, et aussi, donc ça c'est au niveau architecture, au niveau software, on a aussi des limitations par rapport à la donnée, comment elle est stockée en base de données. Donc ça c'est un constat, on a des problèmes de perf et d'évolutivité. Pour répondre à cette problématique, donc on a pu le voir tout à l'heure, on a le in-memory qui a été introduit avec Xvelocity pour améliorer les performances. Donc on a des gains de performance jusqu'à 50 fois plus rapide, gains de performance, gains de compression, des possibilités de proposer des data warehouses qui sont en temps réel et non plus processées avec des batches de nuit, etc. Et donc au final, un gain de temps et d'argent. APS, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, APS, c'est l'Appliance Parallel Data Warehouse, donc qui est la version massivement parallèle de SQL Server, et aussi une région HD Insight pour ce qui est Hadoop. Donc avec le PDW, on va pouvoir avoir des gains jusqu'à 100 fois plus rapides par rapport à un serveur SQL classique, SMP. On va pouvoir mettre en place des traitements très complexes et de forte volumétrie. Et on va avoir une évolutivité assez simple, puisque dans votre appliance, donc qui est comment dire, un package tout en un hardware et software, pour schématiser, c'est une armoire avec un ensemble de racks qui est déjà préconfiguré aussi bien au niveau hardware que software. Vous allez pouvoir partir avec une configuration minimum et au fur et à mesure de votre besoin, la faire évoluer et le tout de façon transparente. Il n'y a pas besoin de redémarrer, il n'y a pas besoin comment dire, de tuning particulière. Ça va être pris automatiquement en compte par l'appliance, l'ajout que vous avez fait.
Alors, Donc, on j'ai a. entendu dire, excuse-moi de te couper, qu'il y avait aussi des garanties de performance sur
Tout à
les.
fait, puisqu'en fait, c'est une appliance. Donc, c'est un service auquel on souscrit. Ce n'est pas juste un achat de logiciel ou un achat d'hardware. Lorsque vous achetez. vous souscrivez à une appliance, vous souscrivez à un service. Donc vous avez des gains de performance qui sont garantis. Donc quelque part, si les gains de performance ne sont pas au rendez-vous, bah, comme dans tout contrat de service, vous pouvez vous adresser donc, à votre fournisseur de cette appliance, puisqu'il y a différents fournisseurs avec lesquels Microsoft travaille, et être en droit de demander donc, effectivement des garanties par rapport à ces gains de performance. Et il y a aussi des pénalités qui s'appliquent comme dans tout service, contrat de service. Donc on a, pour revenir donc à l'appliance, une évolutivité qui est quasi linéaire dans le temps. Donc la vision de Microsoft pour répondre aux besoins de nos clients, c'est d'un côté de répondre aux besoins de performance et d'évolutivité des solutions, donc avec la partie PDW qu'on vient de voir, mais aussi de pouvoir embarquer tout ce qui est scénario Big Data avec une région HD Insights, donc une région Hadoop au sein de l'appliance APS. Jusqu'ici, donc les deux mondes, le monde des données big data non structurées et les données structurées du monde plus classique, plus relationnel, avaient beaucoup de mal à communiquer ensemble. Ou alors, comme tu viens de nous le faire voir, il faut passer par effectivement tout un tas de traitements avec du MapReduce, du Pig ou du Hive et ainsi de suite. L'avantage de la solution de l'appliance APS, c'est qu'elle va proposer une interface entre les deux, qui s'appelle, cette interface, c'est Polybase. Donc Polybase va permettre, avec du SQL, tout ce qu'il y a de plus standard, de requêter nos données relationnelles structurées, stockées dans notre PDW, et nos données non structurées, qui sont dans notre région HD Insight Hadoop. Donc avec une simple requête. Il n'y a pas d'intervention spécifique pour que ce soit mis en place. C'est livré clé en main avec l'appliance APS. L'avantage, c'est effectivement il n'y a pas de compétences supplémentaires à acquérir. Donc pas apprendre le Hive, le Pig ou le MapReduce. Il suffit de maîtriser le SQL. Et on va pouvoir analyser tout type de données et, bien entendu, bénéficier des temps de traitement d'un système massivement parallèle. Donc, si on refait un lien et un parallèle avec ce qui existait jusqu'ici avec des systèmes maison, effectivement, il fallait faire du choix matériel, il fallait faire du choix de logiciel, avoir différents interlocuteurs, à chaque fois avec des contraintes et des évolutivités. Enfin, pour faire évoluer l'ensemble de l'architecture, c'est souvent très monolithique et très compliqué. Avec une appliance, on n'a pas ce souci. On souscrit un service, comme on l'a dit. Ce service, sous forme de hardware et de software préconfiguré, vous est livré, vous est branché par le fournisseur en question, testé, livré, garanti, vous signez quelque part le contrat, comme quoi l'appliance a bien été livrée avec les conditions, et vous pouvez l'utiliser dès qu'elle est branchée, pour faire simple.
Pratique.
C'est du plug and play. Du plug and play qui inclut, donc, le meilleur des deux mondes, hardware, software, avec chacun ses best practices de configurer. Vous minimisez les risques aussi, puisque ce sont et l'éditeur et le fournisseur hardware qui vont les mettre en place. Et donc, vous avez un gain de temps, puisque ça vous arrive déjà préconfiguré, tout packagé, prêt à brancher. L'autre avantage que vous avez d'utiliser une appliance comme APS, c'est que vous avez des outils d'opération standard. Tout à l'heure, on a pu voir que pour adresser des sujets comme Azure, avec des scénarios hybrides, on utilisait Management Studio. Ben là, ça va être la même chose. Pour administrer vos bases de données sous APS, ben vous allez utiliser la même chose, Management Studio. Pour faire vos développements, vous avez utilisé Data Tools, Visual Studio ou Data Tools. La supervision, ça va être System Center, comme vous l'utilisez déjà actuellement. Et enfin, tout ce qui est outils de business intelligence, donc Excel, qu'on a pu le voir dans les démos pour faire avec les outils Power BI, ou le partage de cette information via un portail tel que SharePoint dans un navigateur web, vont aussi pouvoir bénéficier des données qui sont présentes dans APS avec un point d'entrée unique, que ce soit pour les données donc structurées ou non structurées. Donc cette vision des deux mondes structurée, non structurée, big data, c'est une vision que Microsoft appelle le Modern Data Warehouse. Donc, comme on a pu le voir là sur le schéma, on a tout type de sources de données relationnelles, non relationnelles, qu'on va intégrer d'un côté soit dans la région du PDW, soit dans la région HD Insight pour ce qui est non structuré. Et puis par-dessus, donc après les avoir réconciliés, agrégés, etc., on va pouvoir mettre en place donc, du management de données, du référentiel, de la qualité de données, la mise en place de cubes, BI, etc., et pouvoir le proposer aux collaborateurs sous différents formats, donc collaboratifs ou en self-service BI. Donc si on regarde un petit peu donc, cette comment est découpée l'appliance, on l'a dit, on a une région PDW donc pour faire du massivement parallèle, on a une région HD Insight pour le big data et entre les deux, Polybase qui permet donc de communiquer avec du langage SQL avec les données des deux mondes. Donc une requête Polybase, ben, en fait, comme vous pouvez le voir, ça ressemble exactement, une requête select SQL, ce qui est plus classique, un select from where. Sauf que là, bah, vous avez dans votre from des données qui vont venir de votre région PDW qui est dans APS. Vous avez des données structurées ou non d'ailleurs qui viennent, bah, qui peuvent venir d'Azure. Vous avez des données structurées qui viennent de votre région HD Insight ou des données non structurées qui viennent d'Hadoop dans Azure. Donc il n'y a pas de compétences particulières à acquérir pour pouvoir écrire ce type de requête, hormis bien entendu la maîtrise du SQL et de savoir où vos sources de données se trouvent. Donc là, nous allons passer à une démonstration.
Donc Bertrand, c'est toi qui nous fais la démo ?
Tout à fait.
Super.
Je vais donc vous présenter Polybase qui, dans l'appliance APS, permet de requêter en SQL aussi bien des données structurées provenant la région PDW que des données non structurées provenant de la région HD Insight, donc Hadoop et tout ce qui est donc du monde plus purement Big Data. Donc là nous sommes dans un environnement qui vous est certainement connu, qui est Visual Studio, et je suis sur mon Dataware d'une application de revente en ligne. Donc comme vous le voyez, c'est un dataware tout ce qui est plus classique avec un certain nombre de dimensions et de tables de faits, dont une table de faits qui permet d'analyser les ventes à partir du site web de l'entreprise. Sur ce dataware, nous avons construit un modèle Power Pivot dans Excel qui nous permet ensuite de faire de l'analyse dans un rapport Power View qui, ce même rapport, permet de donc ressortir nos données de vente par catégorie et tout un tas d'autres indicateurs présents au niveau de notre modèle. Donc lorsqu'on clique sur les différents slicers et filtres, cela nous permet donc de mettre à jour le rapport Power View. Par contre, ce que nous n'avons pas sur notre modèle Power Pivot actuellement, c'est la provenance des ventes qui sont réalisées sur Internet. Donc on a des montants, on a les catégories de produits, ainsi de suite, mais on ne sait pas d'où proviennent ces ventes. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir intégrer cette notion géographique du lieu d'achat sur Internet. Et au niveau de notre région HD Insight, nous avons les logs 2IS de notre application Internet qui sont stockés. Donc là, je vais au niveau de mon file system, de mon HDFS, qui est le file system sur HD Insight, et je vais trouver donc un fichier qui s'appelle location info, qui représente les logs de mon serveur 2IS. Donc si je l'ouvre, bah, j'ai toutes les informations concernant les ventes sur Internet à partir de mon site web, avec les informations concernant le nom de la personne, sa date de naissance, son adresse email, les quantités achetées, sa catégorisation professionnelle, et ainsi de suite. Donc c'est ces données qu'on va essayer donc de réconcilier avec nos données de vente présentes dans notre dataware qu'on a vu précédemment.
Donc je reviens au niveau de Visual Studio et de mon Dataware. Et puis bah, je vais créer une requête. Une requête pour créer une table externe qui renfermera donc nos informations de notre fichier de log2js. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du SQL, tout ce qui est le plus classique, avec la précision donc que c'est une table externe, external table, avec une description des noms de champs, de leur type, leur longueur, etc. Et puis il y a une indication supplémentaire donc en fin de création de la requête pour la nouvelle table, qui est l'indication with. Et dans ce with, nous précisons la location, donc la localisation de notre fichier de log 2IS, avec les délimiteurs et toutes les informations qui vont permettre de lire ce fichier. Donc je vais exécuter la requête. Une fois cette requête exécutée, je vais me placer au niveau de external table au niveau de ma base de données de mon Dataware. Je vais rafraîchir et je vais voir qu'une table location info a donc été créée. Allons voir ce qui se trouve dans cette table location info avec un simple select tout ce qui est de plus habituel. Et donc je retrouve toutes les données que l'on vient de voir lorsque l'on a ouvert et édité le fichier de log2IS. Donc à ce niveau-là, c'est déjà une partie intéressante puisque de manière très simple, nous avons pu intégrer dans le monde relationnel des données non structurées venant du monde Big Data. Et maintenant, on va réconcilier donc nos informations de vente en ligne avec ces informations de localisation géographique. Je viens de le dire, on va aller un peu plus loin et on va requêter nos données de vente et les joindre avec nos données de localisation géographique de notre site internet. Donc un select avec une jointure, tout ce qu'il y a de plus classique. J'exécute cette requête. Donc effectivement, nous avons le résultat avec par pays, par état et par ville, le nombre de ventes et le coût total pour ces mêmes ventes que cela représente. Maintenant, on pourrait se dire que c'est assez intéressant que les analyses qu'on a construites au niveau de nos Dataware, eh bien, on les partage et on les met à disposition dans notre région HD Insight pour que d'autres applications puissent aller les consommer et les utiliser. Donc comme on a créé notre table externe pour importer, on va faire la même chose, on va faire une table externe pour exporter nos données et la source de la création de cette table externe d'export de données, c'est tout simplement la requête SQL que nous venons de voir avec notre select et notre jointure entre nos tables de vente et nos localisations géographiques. Donc j'exécute la requête. La requête a été exécutée avec succès. Et là, je vais aller au niveau de mon HD Insight sur mon système de fichiers. Et cette fois-ci, en dessous du fichier de log2js que nous avons précédemment vu, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle Sales by Region Export, qui est ce fichier qu'on vient de créer et d'exporter. Je reviens au niveau donc de mon Visual Studio, donc plutôt côté PDW, côté relationnel structuré. Et je vais désormais enrichir mon modèle Power Pivot qu'on a vu tout à l'heure pour lui rajouter toute cette indication de géographique concernant les ventes. Donc je mets à jour mon modèle Power Pivot et puis je vais par là même mettre à jour mon rapport Power View qui se base sur mon modèle Power Pivot et je peux désormais sur mon modèle Power View analyser mes ventes par secteur géographique représenté sur une map. Donc en cliquant sur une ville spécifique, ma map se met à jour, ou inversement en cliquant sur la map, mes données de vente se mettent à jour. Et donc on peut affiner nos analyses de cette manière.
Donc comme on peut le voir, on a été assez loin et le tout sans avoir fait une seule ligne de Hive, de Pig, de MapReduce ou quoi que ce soit. Polybase avec du SQL nous a permis d'exploiter le meilleur des deux mondes structuré, non structuré. Familier, en fait. Et dans un monde familier qui est Visual Studio Data Tools, qui est déjà utilisé par tous les développeurs BI actuellement sur les solutions Microsoft.
Et ce, peu importe le type de données, finalement, comme tu l'as montré, que venant de log 2IS, venant de données structurées déjà présentes en base de données, pouvoir regrouper tout ça avec un langage unique, le Transact SQL, dans un outil que l'on maîtrise, pour au final arriver à faire de l'analyse des données au niveau qui nous intéresse.
Tout à fait. Et là, on était sur un petit jeu de données, donc c'est pas forcément, on ne peut pas forcément le voir et s'en rendre compte, mais derrière, ça bénéficie du massivement parallèle qui est disponible donc avec le PDW et sur de hautes volumétries de données. C'est non négligeable de aussi pouvoir traiter nos données relationnelles comme structurées, comme non structurées, avec le bénéfice du MPP.
Alors, tu parles de forte volumétrie de données, donc tu peux nous donner une ordre d'idée, justement, à quoi ça correspond ?
Là, quand on parle de forte volumétrie de données avec une appliance comme APS, on va jusqu'au péta.
Quand même.
Oui. OK. Donc, voilà pour ce qu'on peut faire avec de l'APS. Et donc, pour la fin de la démo.
Merci Bertrand pour cette démonstration. Je vois qu'il t'a pris beaucoup de plaisir à la faire vu que ça te fait rire. En tout cas, merci pour de nous avoir suivis lors de ce webinaire. Donc, dans les quelques slides qui nous restent, ce sont des slides de ressources auxquelles vous pouvez vous connecter donc, pour récupérer des informations sur les nouvelles fonctionnalités des SQL Server 2014, notamment sur tout ce qui est les technologies in-memory, mais tout ce qui est aussi pour les scénarios de cloud hybride, si vous souhaitez justement étendre vos infrastructures existantes ou pourquoi pas partir directement dans le cloud pour vos nouvelles applications. C'est aussi tout ce qui est le big data avec ce qu'on a vu notamment les parties HD Insight, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut faire avec le Hive, Pig, etc. Et puis enfin, justement, si vous voulez vraiment traiter beaucoup de volumes de données, et d'ailleurs des données qui sont complètement hétérogènes, structurées, non structurées, vous pouvez donc bénéficier donc d'appliances que vous a démontré Bertrand pour pouvoir donc traiter cette volumétrie, cette hétérogénéité et pouvoir ancrer de l'information utile et donner de la valeur à vos données pour pouvoir faire des analyses, voire même des prédictions avec l'ensemble des informations que vous avez à disposition. Merci beaucoup pour nous avoir suivis.
Merci à vous, merci Franck.
Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.